Direct en jeu, la radio insolite, les quartiers d'été toujours encore à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et pourtant, je n'oublie pas mes premiers amours, comme je les appelle. Alors attention, ça va jaser. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors les premiers amours, c'est évidemment ceux qui font des choses extraordinaires. Les vrais de vrais, les vrais professionnels qui sont nos guides conférenciers à Lyon. Je pense en particulier évidemment à notre grand Luc Chavant. Enfin, et puis il y a aussi les visites des filles. C'est un peu comme ça que s'appelle la structure, n'est-ce pas Clémence?
Oui, c'est ça. C'est une association.
Alors c'est quoi concrètement les visites des filles?
Alors, on est donc trois guides professionnels, trois guides conférencières, Marion, Émilie et moi-même, Clémence. Et donc, en 2015, on a décidé de se regrouper nos talents, notre savoir-faire, pour faire ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire des visites insolites de Lyon qu'on pourrait offrir au plus grand nombre, pour pouvoir avoir vraiment un lien avec nos citoyens lyonnais, voilà, avec tous les Lyonnais, pouvoir leur faire découvrir le patrimoine de leur ville, que parfois on connaît pas très bien, on connaît pas toujours très bien notre propre quartier. Voilà. Et on a décidé de faire une association pour promouvoir un peu nos visites guidées. Et voilà, on fait, depuis ce temps-là, chaque mois, on propose une visite. Et samedi du mois, c'est la date fixe chaque mois, et c'est une visite de quartier. Alors ça va être l'île Barbe prochainement, mais ça peut être aussi bien le Vieux Lyon, mais plutôt centré sur Saint-Georges, parce qu'on voudrait but c'est d'être de sortir des sentiers battus, donc de sortir aussi de ce qu'on fait tous les jours, comme Saint-Jean par exemple. Voilà, les Brotteaux, Saint-Just, on a même fait le cimetière de l'Oyas. Parfois, on fait des choses plus à thème, comme la Résistance ou sur l'architecture. Voilà, donc ça, c'est tout sur notre site internet, lesvisitesdesfilles.fr.
Je voudrais revenir juste sur un point qui est très important, parce que je l'ai mis en présentation. Et je vais le faire avec un petit humour. Vous êtes de vrais guides conférencières.
Oui, on peut dire ça. On est des guides conférencières diplômés, c'est-à-dire qu'on a obtenu, suite à nos études, suite à une licence professionnelle de guide conférencier, une carte délivrée par l'État qui nous permet de guider dans tous les lieux recevant du public, les musées, les sites historiques. Voilà, il faut avoir cette carte pour pouvoir guider au sein de ces structures.
Voilà, c'est votre métier, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même qui le proposent comme ça par plaisir et qui n'ont pas toujours la même exigence de connaissance ou de perfection dans l'explication. Vous, c'est clair, c'est votre métier à part entière, un peu comme ce que je vis ici avec les maisons fortes et les guides conférenciers chez d'art d'histoire de la ville d'Aix-les-Bains. Vous faites uniquement sur Lyon ou ça vous arrive de sortir de Lyon?
Alors, dans le cadre des visites des filles, on ne fait que Lyon.
Mais sinon... Moi, je suis à Villeurbanne, on a le droit d'exister, nous aussi.
Ah oui, pardon. Alors, Lyon, quand je parle de Lyon, je parle de l'agglomération dans
la
son ensemble.
D'accord.
Okay. Voilà, la métropole. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas aller en dehors, dans l'Isère ou dans... ailleurs dans le Rhône, mais par contre, dans notre activité professionnelle, cela nous arrive de guider dans le Beaujolais. Moi, je suis même allée déjà jusqu'à Annecy, donc voilà. Ça, c'est...
Qu'est-ce qui peut expliquer cette... C'est quoi? C'est un métier? C'est une passion? C'est un métier passion?
Oui, c'est avant tout un métier passion, oui, parce que on s'intéresse à l'histoire, il faut qu'on se plonge dedans à fond, hein, si j'ose dire, vraiment... Si on n'a pas la passion de transmettre notre savoir, on ne peut pas faire ce métier.
Alors, il y a des circonstances atténuantes. Tu avais des parents qui travaillent dans des musées, dans des bibliothèques. C'est toi qui as la guide découverte ce jour-là?
Ben, mes parents, en m'amenant dans des sites quand j'étais petite, en me faisant suivre des guides, je me souviens avoir vraiment apprécié suivre des visites guidées quand j'étais petite. Et ça m'avait vraiment fascinée, ce métier m'avait fascinée. Je m'étais dit, ah oui, je me vois bien comme ça plus tard. Et puis, cette idée est restée dans un coin de ma tête. J'ai poursuivi des études de tourisme, d'abord axées dans le monde des agences de voyage. Mmh. Et puis, j'ai tout de suite pris la direction du patrimoine et du guidage.
D'accord.
Voilà.
Ok, ok. Bon, allez, on attaque. Il y a certains quartiers qu'on ne désigne pas par un arrondissement. Je prends le quartier de la Croix-Rousse, je prends le quartier de la Part-du-Loup.
Oui.
On ne dit pas le 4e, on ne dit pas le 5e, on ne dit pas le 3e, on ne dit pas le 9e, on dit Saint-Rambert. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est simplement que ce sont des villages à l'intérieur d'une grande ville?
Oui, alors comme la Croix-Rousse, il s'agit d'un ancien faubourg qui n'appartenait pas à la ville de Lyon. Donc ça a une histoire, une entité propre. Le quatrième arrondissement est venu bien après le nom de la Croix-Rousse, par exemple, pour donner un exemple. Mmh. Voilà. Et Saint-Rambert, c'est pareil. C'était avant tout un petit village, un petit bourg, et qui a été bien tardivement, au XXe siècle, intégré au neuvième arrondissement.
Au XXe siècle, c'est-à-dire?
Dans les années 50-60. J'ai plus la date exacte en tête.
Ah, carrément?
À peu près. Voilà.
D'accord. Et mais alors, Lyon était tout petit avant. C'était quoi?
Oui.
C'était un petit point sur la carte.
Alors, si on reprend toute l'histoire de Lyon, oui, la ville, elle est partie déjà de la colline de Fourvière, où elle a été fondée par les Romains. Ensuite, elle s'est étendue petit à petit, mais ça a pris très longtemps. Encore au Moyen Âge, la ville se résumait à la colline de Fourvière et la rive droite de la Saône, le long du vieux Lyon actuel.
D'accord. Saint-Rambert,
donc, effectivement.
Oui. Saint-Rambert, c'était quoi à l'époque alors? C'était un village de pêcheurs, parce que ça donne sur la Saône.
Alors, la prochaine visite que je vais faire va parler de l'île Barbe.
Ah oui, pardon.
L'île Barbe, qui est en face de Saint-Rambert. Mmh. Et vraiment, Saint-Rambert, c'est lié à l'histoire de l'île Barbe et en particulier du monastère. Qui est l'un des plus, qui est reconnu, bon, il n'y a pas beaucoup de vestiges, hein, mais qui est reconnu comme l'un des premiers en Gaule, donc, mm-hmm. qui remonte, dont les origines remonteraient au 5e siècle de notre ère. Donc, il y avait un monastère là-bas, et le bourg de Saint-Rambert s'est construit en fonction de l'activité des moines, mm-hmm. par rapport à cette activité monastique.
Et donc, juste au milieu de la Saône, il y a une île.
Voilà, l'île Barbe.
Alors, la question est un peu simpliste. Pourquoi ça s'appelle l'île Barbe?
Ah, alors, est-ce que je vais vous dévoiler tous mes secrets tout de suite?
Non, alors je vais lancer une rumeur.
Non.
Veut dire simplement qu'il n'y avait que des barbus sur cette île. Voilà, c'est ma
première. Non. Alors, si on pense aux Celtes comme étant barbus, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de légendes sur cette île. Mais la réalité, c'est que ça vient du latin insula barbara, qui veut dire l'île sauvage, parce qu'elle était couverte de végétation, de ronces qui ont été ensuite défrichées par les moines. Et voilà. Bon, en tout cas, avant ça, du temps des Romains, elle était complètement sauvage. Et la légende dit que des druides allaient y procéder à des sacrifices. Donc, on peut voir le mot sauvage comme ayant lien avec ces légendes-là.
Le pont existait déjà à l'époque gallo-romaine?
Ah non, pas du tout. Le
non,
pont.
Je plaisante. Comment ils faisaient? Ils y allaient à la barque?
Alors, voilà, tout à fait. En bateau, hein, tout à fait. Au Moyen-Âge, on avait des barques, des bacs qui faisaient le lien entre les rives et l'île.
D'accord. Et il y avait donc, c'était soit sauvage, soit il n'y avait pas de production dessus, il n'y avait pas d'artisans, il n'y avait pas.
Non, alors voilà, après le monastère, on va se développer. Les moines subsistaient principalement grâce à leurs terres qu'ils possédaient dans toute la région. Voilà, ils étaient, comme c'était une abbaye très très puissante, ils possédaient de nombreux prieurés et ces prieurés leur reversaient une dîme, leur nourriture venait de ces prieurés, des récoltes de leurs terres, mais qui étaient bien loin parfois de l'île Barbe.
Bon, pour ne pas trop dévoiler ce qui va se passer sur la visite, parce qu'elle est importante, elle a lieu quand la visite au fait?
Elle a lieu ce samedi 1er août à 14h30.
D'accord. Est-ce qu'il y a un truc insolite à ne pas rater quand on va à l'île Barbe?
Alors, là, j'ai pris contact avec l'association des amis de l'île Barbe qui possède la chapelle de l'île, la chapelle Notre-Dame, dont on voit très bien le clocher depuis la rive gauche quand on passe. Et donc, pour moi, c'était essentiel de faire rentrer les gens dans cette chapelle, qui est une belle chapelle romane, alors qui est conservée en partie, mais pas complètement, mais dans laquelle on peut encore voir de magnifiques chapiteaux romans. Et donc, c'est la première fois que je vais faire rentrer un groupe dans cette chapelle. J'ai donc demandé à l'association de nous ouvrir leurs portes. Donc, pour moi, c'est important de voir ça. Et bien sûr, toute la partie privée de l'île, parce que il y a une partie privée qu'on voit très mal depuis l'intérieur de l'île ou depuis les rives.
L'île Barbe, c'est durant l'été et même durant toute l'année, il y a des gens qui viennent pique-niquer, qui viennent jouer à la pétanque, qui viennent se détendre. C'est un espace qui est assez vert, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait.
Et évidemment, il y a d'autres choses. C'est ces autres choses-là qu'on va pouvoir découvrir avec toi. Donc, c'est ce samedi à 14h30. Il y a encore de la place pour s'inscrire?
Alors, quand j'ai regardé hier, il ne restait qu'une seule place. Alors, dépêchez-vous.
Allez, comment est-ce qu'on fait? c'est très, très bien. C'est pas le problème. La prochaine visite, c'est quoi?
Alors, pour l'instant, peut-être que je reproposerai la visite de l'île Barbe, mais pour l'instant, notre activité est un peu difficile à continuer suite aux mesures sanitaires, au confinement. Ouais. Donc, ma collègue Émilie a trouvé un emploi salarié, donc elle est très prise, elle peut pas assurer la visite du mois de septembre. Là, c'est la première visite qu'on refait depuis le mois de mars. Voilà, moi, je réessaye cette visite avec une visière de protection ou un masque. Je vais voir lequel est le plus pratique. Et en fonction de ça, c'est un peu un test, je vais voir si c'est vraiment possible de guider avec ce dispositif. Et si ça se passe bien, on va petit à petit reprendre notre programmation que vous pouvez consulter sur notre site internet. Donc, on avait prévu la Duchère, on avait prévu un city trek sur Fourvière, voilà. Donc, affaire à suivre.
Juste pour info, ici, à Aix-les-Bains, les guides conférenciers se baladent avec des visières, parce que c'est quand même plus pratique. Le masque, malheureusement, ne permet pas de porter la voix. Voilà. Ouais. Écoute, moi, je voulais te remercier pour avoir pris ces quelques minutes. Bonne reprise. Ça va, c'est pas trop le trac de reprendre après quelques mois d'arrêt?
Non, ça fait du bien de s'y remettre. Et comme on le disait, c'est un métier passion, et renouer un peu avec ça, c'était vraiment du bien.
D'accord. Eh bien, écoute, tout le mal que je te souhaite, c'est que ça se passe très, très bien. N'hésitez pas. Attention, à l'heure où on parle, il semblerait qu'il ne reste plus qu'une seule place. Dépêchez-vous à aller faire un tour sur le site internet des visites des filles. Merci, Clémence.
Merci. Merci, Alain. Merci beaucoup.